T'es dans la capsule. Tu sors de l'atmosphère. Tu passes de l'autre côté. T'es en apesanteur. Tu flottes.
Ah, ils vont se multiplier.
Chut, chut, chut. Venez, on va se mettre en retard pour l'émission.
Ne fais pas de bruit. T'as pas le d'or.
Una, all, two, vous.
En 25 ans d'émission, je n'ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
Say it again.
Una, all, two, vous. Now, go away now.
Allez, action.
Action, pourquoi faire?
Il arpente la Terre, elle rêve de partir là-haut, de voyages intérieurs aussi, deux profils de cinéastes, l'une est française, l'autre palestinien, et ces deux planètes vont se rencontrer ce matin. Bonjour tout le monde, et salut Laurent.
Et bonjour Christine, et puis bienvenue à toutes et à tous.
Elle va enfin concrétiser le rêve de sa vie, partir à bord d'une mission spatiale d'un an, en vue d'un voyage sur Mars. Sur Terre, une petite fille de 7 ans, la sienne, va-t-elle la détourner de ce rêve? Bonjour Alice Vinocourt.
Bonjour.
Une séparation terrestre et ombilicale, c'est bien le propos de Proxima, votre nouveau film, qui explore magnifiquement les fragilités et les limites d'une astronaute. Proxima est sorti mercredi. Sur Terre, il nous invite à rire avec lui de la folie du monde et à tenter de lui résister. Bonjour Elia Souleymane.
Bonjour.
It Must Be Heaven, votre film, vous suit de Nazareth à Paris en passant par New York, observer le monde dans les détails du quotidien et les pousser jusqu'au ridicule et l'absurde, un espace poétique qui tend vers l'abstraction. It Must Be Heaven sur nos écrans mercredi prochain et bienvenue à Xavier Combes, votre interprète. Bonjour.
Bonjour.
Enfin, les sorties de cette semaine et face à Proxima, chanson douce, Indiana Rat, à couteau tiré, L'Orphelinat, Sympathie pour le Diable, tous des films en salle et le dernier Scorsese, lui en ligne, et ce n'est pas pareil. C'est parti.
Monsieur Souleymane, merci. Merci d'abord de nous avoir apporté ce projet. Comme vous le savez, c'est la typologie de projet qui nous intéresse. C'est un film sur le conflit palestinien et vous le savez, on a une certaine sympathie pour la cause palestinienne. Alors c'est pas du tout une question de vouloir faire un film très didactique ou exotique sur la Palestine, mais c'est vrai qu'on pourrait dire presque qu'on n'a pas trouvé ça assez palestinien, et c'est pas pour des raisons commerciales, puisque vous savez bien que ce genre de film, hélas, sont pas les films qui font recette. On les fait pas pour ça, on les fait parce que on pense qu'on se rend utile, mais ce n'est pas un projet qui correspondrait à notre ligne éditoriale dans le sens où on a l'impression que ça se passe en Palestine, mais si ça se passait ailleurs, ça serait la même chose. Ça pourrait même se passer ici. Donc je pense pas qu'on va donner suite. On aurait beaucoup aimé le faire, bien entendu. Malgré l'excitation qu'on avait, je pense que nous n'irons pas plus loin sur ce projet.
Voilà le morceau le plus parlant du film It Must Be Heaven. Elia Souleymane, vous avez dû en entendre des conneries, excuse my French, dans votre vie de cinéaste, des producteurs comme celui interprété ici par Vincent Maraval au second degré. On n'a pas trouvé ça assez palestinien. Vous l'avez entendu celle-là, vraiment?
Yes. But not for this film.
Oui, mais pas à propos de ce film.
It was actually when I came to Paris,
quand je suis arrivé à Paris,
to try to get produced by a French
pour
producer,
chercher un producteur français.
In one case, I was even
et j'ai été snobé. On m'a même demandé de quitter le bureau. On m'a dit que j'étais un faux Palestinien.
And an American Palestinian,
et un Palestinien américain, parce que je vis à New York. Les producteurs que j'ai rencontrés étaient des gauchistes. Ils pensaient qu'ils représentaient bien la cause palestinienne et ils étaient décidés ce qu'elle devait être, cette cause palestinienne. Mais en fait, ils étaient choqués, déçus, parce qu'ils ont vu le film et ils m'ont dit, mais pourquoi il n'y a pas de violence? Pourquoi on ne traite pas de la cause sociale palestinienne? Bon, bref, c'était insultant, en fait. Et en fait, il y avait de l'humour et ça, c'était trop pour eux. Ils m'ont dit, mais comment avez-vous les couilles de mettre de l'humour dans une situation dont on sait pourtant qu'elle est dramatique? Donc, on m'a, c'était une fin de non-recevoir.
Vous dites, mon activisme politique, c'est de travailler sur moi-même dans cette optique du désir, ça veut dire?
It will take an hour and I will take everybody.
Est-ce qu'on a le temps? Ça va prendre une heure pour expliquer ça.
I think that because in essence people ask me what is this, how did you start, where did you get the idea of working on your film?
D'où vient l'idée du film? En réalité, quand on travaille dans le domaine du cinéma, c'est pas comme ça que ça se passe. On commence par la recherche d'une image composée et censée procurer du plaisir. Ensuite, on peut dire que le plaisir, c'est un acte politique.
Et
cela peut provoquer la méditation, mais le plaisir de méditer sur une image, ou même regarder une scène burlesque ou avoir du rire, ça peut questionner, ça peut envoyer des messages intéressants, ça peut figer le temps et donner une notion beaucoup plus poétique du temps. Et donc, c'est un acte de résistance de ce point de vue-là. En donnant au spectateur un certain plaisir, tel que celui que je viens de décrire, eh bien, on sort des pistes qui nous sont pourtant indiqués par les multinationales, gouvernements et ainsi de suite, et donc on se rend compte de sa propre existence. Je peux continuer hein, si vous voulez, encore une demi-heure.
Non, mais ça veut dire que le politique est dans l'intime, alors. C'est ça, hein.
We work usually from reducing our inner violence.
Généralement, on a tendance à réduire l'intime.
We try to make ourselves
better. Nous essayons de nous améliorer.
We never will arrive to the status
of what
we have put as an ambition, which is the humanity.
À notre ambition, qui est l'humanité. Parce qu'évidemment, quand on regarde le monde autour de soi, on se rend compte que ça va dans l'autre sens. Mais par exemple, le fait d'avoir un moment tendre dans un film, après le visionnage, on partage cette tendresse, on recherche la tendresse auprès des gens qu'on aime, parfois on a faim, on va au resto japonais, bon bref, ou alors on peut ressentir une sensation sensuelle, on a envie de prendre quelqu'un dans les bras, faire l'amour, que sais-je. Donc ce plaisir dont je parlais peut se muter en un plaisir différent, et c'est le pouvoir du cinéma, ça. Et l'image qui est composée de manière esthétique peut parvenir à cela. L'image peut permettre que nous soyons plus tendres envers nous-mêmes. Et oui, c'est bien un acte politique.
It Must Be Heaven, votre personnage, c'est vous, cinéaste de Nazareth, qui passe son temps à observer ses semblables, puis part à Paris et à New York pour financer son prochain film. Et à l'étranger, il s'aperçoit que le monde, eh bien, ressemble à un microcosme de la Palestine. Est-ce que ça veut dire, Elia Souleiman, que nous sommes tous colonisés?
Yes, that's I think exactly what I wanted to say.
Oui, and if c'est précisément le message que je voulais faire passer.
Vincent and his monologue,
et quand on pense au monologue de Vincent qu'on vient d'entendre, je dirais que la chute, c'était le son de la sirène. Il dit, ça peut se passer n'importe où, ça. Et on entend la sirène. Je voulais rappeler aux spectateurs que ce qui se passe aujourd'hui, c'est
and we are becoming unconsciously or
d'anxiété, et nous sommes consciemment ou inconsciemment traumatisés par la présence, l'omniprésence des policiers, des robots partout, et nous vivons dans un état d'urgence. Lorsque l'on va à l'aéroport, eh bien, on a d'autres choix que d'être des numéros. Lorsque l'on passe la sécurité, il faut ouvrir les sacs, il faut se faire fouiller, et lorsque il y a un signal sonore où on nous met de côté, on nous fouille davantage. Donc, c'est cette économie néolibérale qui crée toute cette violence. Nous sommes tous des numéros et nous avons créé ainsi un ghetto unique à l'échelle mondiale. Et c'est en fait la conséquence de la mondialisation.
Il y a, c'est pas juste ça, c'est aussi les actes de terrorisme qui ont amené les nations à se protéger aussi.
Où le terrorisme a-t-il commencé?
Bien sûr!
Eh bien, ce sont les pays occidentaux Occidentaux qui ont vendu des armes au début. Et ils sont pas compris que ce serait un boomerang. Moi, j'ai bien vu que ce serait un boomerang. Moi, je vis à Paris. Et lorsque j'ai écrit ce scénario, c'était bien avant de nombreux attentats terroristes. Et je sentais bien qu'il y aurait un effet boomerang. Je ne me suis pas trompé, malheureusement. Donc aujourd'hui, je peux dire que peut-être que j'ai plus, comment dire, plus d'instinct, étant donné mes origines géographiques et culturelles. Peut-être que je saisis mieux le calme avant l'orage, si vous voulez. Je sais qu'il va y avoir l'orage, mais les Palestiniens vivent dans un territoire qui est occupé.
Bien sûr, je disais que les populations occidentales vivaient ça aussi tous les jours, comme d'autres l'ont eu avant.
Absolument.
Ouais, vous parliez beaucoup des sons, parce que les sons sont assez incroyables dans votre film. On a entendu ce morceau de Maraval, mais sinon, ce ne sont que des sons. On a essayé de vous faire un petit montage de ces trois villes, Nazareth, Paris, New York, à travers, je ne sais pas si vous allez les reconnaître, des oiseaux, la police montée, le métro, feu d'artifice, une ambulance, l'aéroport. Écoutons.
Bienvenue à Paris.
Merci.
Bienvenue.
Merci. Put a smell on you.
Bonjour monsieur. Ça va? Vous avez soif peut-être.
Oui.
Are you Brigitte? Brigitte de Pain?
We are looking for Brigitte.
Welcome to New York. It's good to have you here at our school. Are you a perfect stranger?
Elia Suleiman, voici les sons du monde mondialisé. Ce sont des sons que nous entendons partout, en fait.
Yes, absolutely.
Et le langage du cinéma, c'est l'image. Bon, c'est compliqué à la radio, mais vous ne voulez parler, en dehors de ces sons, qu'en image. Vous voulez que ce langage, ce soit essentiellement l'image qui fasse le lien.
I will answer that instantly, but I have to tell you this is the second time I come this week to the radio.
Avant de vous répondre, je voudrais dire que c'est la seconde fois que je viens à la radio cette semaine et je suis sous le charme. C'est formidable, la radio. On entend une bande son et ça ne fait qu'ouvrir les écoutilles, l'imagination. Je vais arrêter le cinéma. Je vais me lancer dans la radio. Je vais demander à avoir un emploi à Radio France.
Mais parce que vous pensez que la parole ne sert plus à rien?
No, it's not that. I think that
we're
missing on the fact that once upon a time,
en fait, language, il y a déjà bien longtemps, le langage avait une temporalité. Mais le cinéma est de plus en plus verbeux et on abuse du langage. On se sert de la langue simplement pour informer les gens, pour les faire consommer et ainsi de suite. Et moi, je n'aime pas le blabla du cinéma. Je n'aime pas le verbiage imposé qui ne vise qu'à proposer un récit purement linéaire qui ne permet pas une interprétation liée à l'individu et à ce qu'il veut imaginer. Donc, à mes yeux, le cinéma, c'est pas simplement un seul langage, c'est un langage pluriel, mais il y a le silence, il y a le son, il y a la musique, il y a le langage, et tout cela parle à l'univers universalité de ce que l'on propose et de ce que l'on veut interpréter. D'un point de vue dogmatique, je ne vais pas dire non, je suis contre le dialogue. Il y a de la langue, certes, mais j'utilise cela comme un rythme, comme élément de rythme, et pas à titre informatif seulement. Donc, il y a des dialogues dont je me sers, mais qui sont plus des monologues que des dialogues, à vrai dire. Et le but est de produire de l'humour et pas forcément pour donner de l'information.
Alice Vinocourt, vous avez vu le film d'Elia Souleymane?
Oui, je l'ai vu il y a quelques semaines et effectivement, je l'ai vu au Festival d'Arras. Et donc loin de la Palestine. Et c'était effectivement... En fait, j'ai l'impression, oui, que ce qu'il dit dans le film, c'est presque des choses qu'on peut dire qu'avec le cinéma. C'est-à-dire que les mots n'existent même pas. C'est même pas une question de dialogue, c'est que les mots n'existent même pas pour exprimer ces émotions ou ces sentiments. Et c'est vraiment, moi, le cinéma qui me touche. Effectivement, on a parlé de la bande-son, aussi de la musique, mais... C'est quelque chose de très précieux.
Il a filmé Paris comme on le voit rarement aussi. Vous lui posiez des questions avant que nous commencions sur Paris. Comment avez-vous fait pour vider les rues?
C'est lui qui
a... It's certainly the credit is not mine.
Je n'y suis pour rien, à vrai dire.
But I insisted...
Vous aviez l'idée quand même, préalable.
Well, this is where I live, by the way. I live where I filmed.
Mais and je vis là où j'ai filmé. Donc étant réalisateur paresseux, je me suis dit, tiens, je vais tourner là, comme ça je n'aurais pas allé trop loin. Je pourrais boire une tasse de café, ce sera facile. Bref, j'ai insisté pour... filmé dans le centre de Paris, là on ne regarde plus rien. Ce sont des lieux que l'on traverse, où on ne regarde rien parce qu'on est sans arrêt en fuite et parce que le bruit est omniprésent, cette pollution sonore est telle que l'on ne peut plus méditer devant la beauté architecturale, par exemple. Donc, le but est double. Je voulais présenter le potentiel de l'état d'exception, la présence étrange des militaires et ainsi de suite, telle qu'on peut la vivre et qui est omniprésente partout dans le monde. Et en même temps, je voulais vider les rues pour que l'on puisse avoir un regard neuf sur la beauté des choses que l'on n'apprécie plus. Encore une fois, le fait de vider les rues, ce n'est pas de mon fait. Mais j'avais une équipe incroyable. Une personne en particulier qui a été responsable de blocage des rues, mais en réalité, il faut que la mairie de Paris, à qui je dois une très grande reconnaissance, parce que c'est ainsi que la permission m'a été donnée. Cet homme m'a dit, vous voulez que je bloque les Champs-Élysées? On peut bloquer les Champs-Élysées, mais je dis, j'ai pas de scène pour les Champs-Élysées. Mais il me dit, écrivez donc une scène, je vous bloquerai les Champs-Élysées. C'était ça, sa générosité.
C'est intéressant, Alice Vinocourt, hein, le regard d'un étranger sur nous, non, sur notre ville.
Oui, bien sûr, c'est intéressant. Et en plus, c'est à Paris, mais aussi à New York. Enfin, oui. On voit qu'il se déplace et finalement, son pays est toujours avec lui.
C'est quoi votre langue, Elia Souleymane? Parce que vous pourriez nous parler en arabe. Vous avez vécu longtemps à New York. Vous vivez en France, vous le comprenez, mais vous ne le parlez pas. C'est quoi votre... Quand vous comptez, par exemple, vous comptez en quelle langue?
I don't remember. Maybe or English or Arabic. My strongest languages are Arabic and English.
Mes premières langues, ce sont l'arabe et l'anglais.
For example, if you ask me,
mais si vous me demandez par exemple s'il y a des domaines où je suis meilleur, le cinéma, je l'exprime mieux en anglais. Dans le cadre d'une interview. Avec quelqu'un qui est arabophone en face de moi, là, je puise dans mon vocabulaire intellectuel arabe qui n'est pas aussi riche que mon vocabulaire anglais, simplement parce que j'ai appris le cinéma.
Way that I did in New York, and it was English.
À New York, donc en anglais.
I read French literature.
J'ai lu la littérature française en anglais, la philosophie française en anglais. Donc il y a plus d'anglais intellectuel en moi que d'arabe intellectuel. Donc, mes capacités linguistiques sont plus fortes en anglais qu'en arabe. Cela dit, dans bien d'autres domaines, je suis plus à l'aise en arabe.
Je vais imaginer quelque chose de stupide, vous me direz, hein, si c'est stupide. Imaginons qu'on envoie vos films aux aliens. Imaginons qu'il y a des aliens, il y a beaucoup d'imagination. Comme votre film a très peu de paroles, les aliens verraient votre film, ils diraient, ah, c'est ça ce qui se passe sur Terre. Mmh. En gros, c'est ça hein, quand on prend du recul. Et c'est là, vraiment, c'est la situation mondiale. C'est un film que vous aimeriez envoyer à des gens ailleurs.
I think we should send it to the governments and to the multinationals.
Commençons déjà par les gouvernements et les multinationales sur Terre, si vous voulez bien. À mon avis, ce film a des implications politiques. C'est un film burlesque. J'espère, en tout état de cause, que les jeunes, parce que mon espoir ne réside que dans les jeunes, je pense que les jeunes sont les seuls qui sont l'endroit où on peut puiser de l'espoir. Bref.
Il voilà. Faut quand même pas qu'ils croient que Paris est aussi désert, parce qu'ils vont venir en masse, hein, pour le coup, ce sera embêtant.
I hope you can. We can start to watch this film one day, not from its problematic angle, but from
the beauty of it. Que l'on voit la beauté du film et qu'on cesse de le regarder du point de vue des problèmes.
Oui, il sort mercredi prochain. Ça s'appelle It Must Be Heaven et sort un autre film. Mais ce mercredi, c'est Proxima.
T'inquiète pas, hein, j'ai pas l'intention de mourir tout de suite.
Moi, j'aimerais bien avoir 5 enfants.
5, c'est pas un peu beaucoup, ça?
Et je serais une très bonne mère.
Ah, t'as intérêt avec 5? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and ignition, and liftoff! Liftoff of the Soyuz for the International Space Station. Séparation du premier étage.
Séparation du deuxième étage. Pas la lumière.
Aïe, aïe, Captain.
Une mère couche sa fille de 7 ans, rituel quotidien. La mère Sarah est astronaute et s'apprête à quitter la Terre un an pour l'espace. C'est le rêve de sa vie et c'est l'histoire de Proxima, votre troisième film, Alice Benaucourt, après Augustine et Maryland. Un film qui explore les fragilités, les limites d'une astronaute. Astronaute et mère, c'était ça l'enjeu.
Oui, exactement. C'était de montrer une super-héroïne qui est aussi une mère, parce que c'est vrai qu'au cinéma, on représente pas souvent ces deux choses dans la même personne, comme si, en fait, ça pouvait les détourner, finalement, de leur mission, en fait, les enfants. Alors que dans la réalité, les femmes ont des enfants et des missions. C'est-à-dire, l'idée, c'était en fait de prendre cet univers comme quelque chose, comme une métaphore, mais de parler, en fait, pour... évidemment, il y a un côté plus spectaculaire dans ce monde de l'espace, de la préparation spatiale, mais l'idée, c'était de parler pour d'autres femmes sur Terre qui vivent la... Et d'hommes d'ailleurs, mais qui vivent cette difficulté d'être finalement ce dilemme en fait, de savoir aussi comment concilier leur vie professionnelle et le fait d'avoir des enfants.
Et la pression sociale d'être une mère, c'est une pression sociale ou une pression intime ou les deux?
Bah, on voit tous les obstacles auxquels elle est confrontée comme astronaute, c'est-à-dire encore une fois, à la fois elle doit se faire accepter dans une équipe d'hommes dans laquelle elle n'est pas la bienvenue, mais aussi elle a ces obstacles intérieurs qu'elle doit dépasser, qui sont effectivement la conséquence d'une sorte de pression, de construction sociale, de cette idée d'une mère parfaite. Et c'est Matt Dillon dans le film qui lui dit « L'astronaute parfaite n'existe pas, la mère parfaite n'existe pas non plus ». Donc en fait, c'est un film de libération où on voit que finalement, elle se libère de ses obstacles intérieurs et la petite fille aussi.
Je vais faire une comparaison avec votre métier de cinéaste. En fait, c'est comme si vous vouliez faire du cinéma, que vous prépariez un film et vous ne pouviez pas le réaliser. Hein, le fait si elle part pas.
Oui, en fait, la réalité de la vie des astronautes, c'est qu'ils se préparent presque toute leur vie, mais
oui.
Leur vie est plutôt sur Terre. En
oui.
Fait. Dans les films d'espace, les ennuis arrivent plutôt dans l'espace, mais dans la réalité...
La vie des cinéastes, c'est pareil, ils sont très peu sur les plateaux de tournage, finalement.
La vie des cinéastes, oui, c'est pareil, mais encore une fois, c'était pas spécialement... Ouais. Évidemment, le monde de l'espace et le monde du cinéma se ressemblent un peu, parce qu'on a aussi des missions, on n'a pas vraiment les pieds sur Terre, c'est aussi un travail très collectif.
C'est vrai.
C'était d'ailleurs amusant quand on tournait dans les centres spatiaux avec les astronautes, où on s'observe. Nos deux mondes s'observaient mutuellement quand on était à Star City, dans la Cité des Étoiles, à 1h30 de Moscou, où en fait, quand on a tourné ce vrai décollage, c'est vrai qu'à chaque fois, on s'observait mutuellement. Mais l'idée, c'était vraiment de parler pour d'autres mondes aussi, parce que voilà, je pense qu'on n'a pas besoin non plus d'être dans des métiers hyper compétitifs non. Pour ressentir finalement cette pression. Et ce qu'on voit dans le film aussi, c'est que quand la mère s'en va, le père finalement trouve sa place,
oui.
Change et finalement aussi Oui, il y a une forme de... Enfin, chacun retrouve sa place dans ce nouveau monde.
Il lui dit quand même, tu voulais une bicyclette, ben pédale maintenant, quoi, c'est vrai.
Oui, c'est l'acteur Lars Eidinger, ouais, qui joue dans les... qui vient du théâtre allemand, de la Showbühne, des pièces d'Ostermeyer, et qui... oui, mais en fait, c'était montrer la complexité aussi de ces personnages masculins, que ce soit Matt Dillon ou Lars, qui finalement... sont un peu décontenancés au départ parce que en fait ils sont pas habitués à cette répartition des rôles, mais finalement encore une fois le père qui connaissait pas sa fille en l'absence de la mère finalement fait très bien, se révèle totalement adéquat et voilà, il y avait pour moi vraiment cette idée d'une libération collective.
Mais en même temps, il paraît que les astronautes hommes parlent beaucoup de leurs enfants. Et que les femmes astronautes, elles font tout pour cacher qu'elles en ont. C'est quand même incroyable.
Oui, en fait, je me suis posé la question, pourquoi le cinéma ne s'est pas emparé de ces questions jusqu'à présent? Pourquoi, en fait, on lèche toute cette partie inconnue de, enfin, cette partie de la vie des femmes qui est importante, celle de s'occuper des enfants, n'a pas été, en fait, investie par le cinéma. Et je pense que c'est parce que les femmes elles-mêmes restent très silencieuses sur ce sujet, parce qu'elles ont intégré que, en fait, dans des milieux compétitifs, avoir des enfants peut être quelque chose qui est encore... Et même pas que dans des milieux,
oui,
compétitifs,
dans tous les milieux.
Dans le monde du travail. Le fait, c'est triste à dire, mais le fait aujourd'hui encore de dire qu'on a des enfants, c'est considéré comme une faiblesse. Donc les femmes n'en parlent pas. Et effectivement, une entraîneuse à l'Agence spatiale européenne à Cologne m'a dit que les hommes, la première chose qu'ils faisaient, les astronautes, c'était de montrer des photos de leurs enfants pour dire qu'ils étaient arrivés à ce niveau de carrière et en même temps qu'ils avaient des enfants, alors que les femmes, elle avait entraîné une femme pendant plus de 6 mois. Et au bout de 6 mois, elle s'était rendue compte qu'elle avait un enfant et personne n'était au courant.
Et en même temps, elles disent aussi que comme elles ont plusieurs choses à faire dans la vie terrestre, elles sont peut-être plus compétentes justement pour gérer cette...
Oui, c'est une astronaute qui est d'ailleurs la gouverneure du Canada, Julie Payette, qui a une vie, qui est partie plusieurs fois dans l'espace, qui a des enfants, qui disait que pour elle, le meilleur apprentissage pour être astronaute, ça avait été d'être mère. C'était comme ça qu'elle avait appris le multitasking, c'est-à-dire le fait de faire plusieurs choses en même temps. Et c'est vrai que pour moi, il y avait aussi cette idée de rendre hommage à toutes ces femmes. Il y a une femme russe qui accueille Eva Green au départ à Star City et qui lui dit, elle lui parle de Valentina Tereshkova, la première femme qui est partie dans l'espace, qui est une icône en Russie mais qu'on connaît peu dans le reste du monde. Et elle lui dit, elle a donné son nom à un cratère de la Lune sur la face cachée. J'espère que toi, tu donneras un nom à la Lune, mais sur la face visible. Donc il y avait vraiment cette idée, en fait, de mettre dans le champ du visible, dans le champ du cinéma, finalement, ces questions aussi que des hommes peuvent vivre, mais là c'était en fait c'était aussi ce sentiment de culpabilité qui, en Allemagne, on appelle encore aujourd'hui les femmes qui travaillent les mères corbeaux, Raven Mother. C'est quelque chose de très violent, c'est les femmes qui poussent les enfants du nid. Donc je pense qu'il y a encore comme ça dans la société une espèce de condamnation morale extrêmement violente qui s'exerce sur les femmes. Et qui d'ailleurs, on le voit d'ailleurs, les astronautes, c'est comme dans d'autres types de professions, les femmes ne sont que 10%. À la fin du film, on les voit, demandé à des astronautes femmes de m'envoyer leurs photos d'elles avec leurs enfants.
Il y en a une qui a un bébé.
Oui, il y en a plein, et puis on voit les missions, elles en ont fait beaucoup. Déjà, on ne sait pas trop qu'il y a des femmes astronautes, on sait encore moins qu'elles ont des enfants, mais je pense que c'est aussi parce que beaucoup de femmes s'auto-censurent, c'est-à-dire qu'elles pensent encore aujourd'hui qu'il faut choisir entre mener la carrière dont elle rêverait et avoir des enfants.
Et en plus, à l'entraînement, il faut qu'elle prouve qu'elles sont meilleures même que les hommes. Comme si elles devaient en faire 2 fois plus.
Oui, parce qu'en fait, il y a aussi cette idée qu'elles doivent s'adapter à un monde qui est pensé par les hommes pour les hommes. C'est-à-dire, dernièrement, la NASA a annulé une sortie extravéhiculaire qui était prévue pour 2 femmes parce qu'il n'y avait pas 2 combinaisons spatiales en taille M.
Mais j'arrive pas à croire. Ça, ouais. C'est sûr.
Mais ils en ont trouvé finalement.
Ah bon?
Mais effectivement, oui, les choses changent. Mais encore une fois, pour moi, ce qui m'intéressait, c'était toute la métaphore, en fait, de cette idée. Les femmes s'entraînent aussi avec des combinaisons spatiales qui pèsent 150 kilos. Ces 150 kilos sont sur les épaules. Pourquoi ? Parce que les hommes sont plus forts au niveau des épaules. Les femmes sont plus fortes au niveau des hanches. Et pour moi, encore une fois, c'était l'image de ce que les femmes doivent supporter, donc aussi encore dans d'autres mondes, pour finalement se faire... En fait, c'est-à-dire qu'elles doivent fournir le même travail que les hommes et un peu plus pour toujours montrer qu'elles sont crédibles dans ce type d'univers.
Le corps de vos personnages est super important dans votre filmographie, comme dans vos films précédents, Augustine et Maryland, c'est des corps cobayes, et elle doit devenir un corps, finalement un corps de l'espace, une mutante. Mm-hmm. C'est ça qui t'importe, qui vous importe aussi.
Oui, parce que moi, c'est ça qui me touche au cinéma, c'est quand le cinéma est une sorte d'expérience physique et sensorielle. On parlait du son tout à l'heure, mais aussi, oui, effectivement, pour moi, c'est des corps, des regards, et c'est vrai que les astronautes, ce qu'on voit pas trop dans les films habituellement, parce que c'est le cinéma américain qui a monopolisé la représentation de l'espace avec sa vision qui est toujours la même, qui est celle de une vision très viriliste, conquérante, le lieu de la superpuissance, alors que la réalité, ce que moi j'ai pu observer à Cologne, en Russie, avec les astronautes du monde entier, y compris les Américains, qui s'entraînent aussi à Star City, parce qu'ils ont une piscine plus grande à Houston, mais quand c'est le moment de quitter la Terre, tout le monde part du même endroit. Il n'y a qu'un endroit d'où on quitte la Terre, qui est Baïkonour au Kazakhstan. En fait, le paradoxe de l'astronaute, c'est qu'en fait, être astronaute, c'est être confronté aux limites humaines, à la fragilité humaine et la fragilité du corps, parce que nos corps ne sont pas faits pour vivre ailleurs que sur Terre. Et en fait, c'est vrai que dans les films d'espace, c'est toujours des visions un peu post-apocalyptiques de la Terre. En fait, il faut quitter cette Terre pour aller chercher d'autres lieux de vie possibles. Alors qu'en fait, notre vie est sur Terre et nos corps sont faits pour être sur Terre.
Je le disais au début, c'est une séparation terrestre et ombilicale. Cette petite fille va devoir apprendre beaucoup de choses. Hein. C'est vraiment, c'est énorme pour une fille de 7 ans de quitter sa mère pendant un an et elle va craquer.
Allô, tu m'entends ?
Avec les maths.
Pleure pas, raconte-moi.
J'étais multiplication pour demain, je comprends rien.
Et papa, il est pas là?
Non, il va entrer, mais plus tard.
Mais t'es où là?
Dans ma chambre.
T'inquiète pas comme ça, tu sais comment c'est. Quand tu paniques, t'arrives pas, alors que quand tu te concentres, t'arrives très bien.
Maman, tu le manques.
Moi aussi. C'est pas grave, tu sais. Y a rien de grave.
Oui.
On se voit dans 2 petites semaines.
Maman.
Bonne nuit. Je t'embrasse fort.
C'est pas grave, dit la mère, quand même, qui va partir un an. Il faut avoir une grosse force aussi mentale pour avoir le courage de dire ça à sa fille, Alice Vinocourt.
Oui, parce qu'en fait, c'est une forme de libération. C'est-à-dire qu'elle... Elle a cette espèce d'obstacle intérieur. Je pense que les obstacles les plus difficiles sont ceux-là à surmonter. Et c'est en fait tout le film, c'est plein de petites séparations, un petit peu comme la fusée qui sépare les boosters avant pour s'arracher de la pesanteur terrestre. Et vous parliez tout à l'heure de séparation ombilicale. Et c'est vrai que dans le protocole russe, au moment de quitter la Terre, on dit séparation ombilicale. C'est pas qu'une projection poétique de ma part, c'est que on dit bien la Terre mère. Donc il s'agit de vraiment s'arracher à cette terre, en fait. Et la petite fille aussi accepte finalement le rêve de sa mère. Y a quelque chose de violent, c'est vrai, de voir, de la voir comme ça s'éloigner d'elle, et en même temps elle comprend, le Proxima c'est la galaxie, en fait c'est l'étoile la plus proche de la Terre, mais c'est quand même à 4 années-lumière, c'est-à-dire c'est 40 000 milliards de kilomètres, donc c'est comme pour moi une mère et sa fille, quoi, c'est-à-dire c'est à la fois très proche et en même temps extrêmement lointain, et ça veut dire aussi en espagnol la prochaine, et donc pour moi c'est l'idée de la c'était l'idée de la transmission. Qu'est-ce qu'on transmet à sa fille? Est-ce que c'est l'idée qu'il faut être cette mère parfaite, cette construction sociale inaccessible, ou l'idée que ce qui est important dans la vie, c'est de vivre ses rêves, de faire ce pour quoi on est fait?
Vous parlez bien de votre film. Hein. Vous avez une fille?
Oui.
Elle a vu le film?
Oui, elle a vu le film. Quoi dire? Disons, je lui avais proposé de jouer dans le film.
Ah oui?
Mais elle a refusé. Elle a dit que si un jour elle tournait avec une réalisatrice, ce serait sûrement pas avec moi. Ce serait sûrement pas avec moi.
Donc, une grande sagesse, non?
Une grande sagesse, oui. Exactement. Et donc, je pense qu'elle a raison, que c'est deux histoires différentes.
La petite fille du film s'appelle Zélie Boulan-Lemel. Elle est incroyable. Il y a Eva Green, bien sûr, qui est extraordinaire. Matt Dillon, Sandra Hüller, qu'on avait vu dans Tony Erdmann. Et notamment Lars Eldinger. Donc, Eldinger.
Sorry.
Proxima est sorti mercredi. It Must Be Heaven, Elia Souleymane, sort mercredi prochain. Vous restez avec nous et après Lana Del Rey, on parle des sorties de la semaine.
I like to see everything in neon. Drink lime green, stay up till dawn. Maybe the way that I'm living is killing me. I like to light up the stage with a song. Do shit to keep me turned on. But one day I woke up like maybe I'll do it differently. So I moved to California, but it's just a state of mind. It turns out everywhere you go, you take yourself, that's not a lie. Wish that you would hold me or just say that you were mine. It's killing me slowly. Dream a little dream of me.
Attention, ça va arriver, nous dit notre réalisatrice. On va parler des films qui sortent, Laurent. On va commencer par Un couteau tiré de Rian Johnson. Célèbre auteur de polar, Harlan Shombay est tombé mort et retrouvé mort dans sa somptueuse propriété le soir de ses 85 ans. Le détective Benoît Blanc, c'est Daniel Craig, est alors engagé par un commanditaire anonyme afin d'élucider l'affaire. Blanc plonge dans les méandres d'une enquête mouvementée, mêlant mensonges et fausses pistes. On sait assez vite qui a tué Laurent et comment, mais le secrétaire, le film a plusieurs tiroirs. Beaucoup d'Agatha Christie et un zeste d'Hitchcock.
Mais oui, un enquêteur, une famille, un manoir, une mort mystérieuse, un romancier, un héritage, une infirmière, une centenaire, un fils, une fille, une belle-fille. C'est curieux comme le polar a souvent l'unicité comme clé de voûte de ces histoires alambiquées. Ce film aurait pu exister il y a 25 ans. Peut-être existera-t-il d'ailleurs dans 25 ans aussi. Enfin, une autre façon, parce que c'est des films qu'on a déjà vus, qui se basent effectivement sur Agatha Christie. Alors tout ça est absolument léger, absolument plaisant, absolument insignifiant au sens propre du terme, et donc ça n'est pas méchant que de le dire, c'est juste, ça n'a pas d'autre sens, d'autre volonté que effectivement de nous distraire comme on tourne les pages rapidement d'un bon roman policier. Voilà, c'est pas plus, pas moins que ça. Ça s'appelle À couteau tiré.
The Irishman sur Netflix. De quelle couleur sont les yeux de Robert De Niro? Moi, jusqu'à présent, pour moi, ils étaient marrons. Alors pourquoi Martin Scorsese lui a mis des lentilles bleues dans The Irishman? Eh bien, bien parce qu'il incarne un Irlandais, ça c'est un peu cliché, mais surtout ses lentilles lui donnent un regard vitreux, presque mort. Donc c'est plus vraiment De Niro, sans parler du rajeunissement artificiel dans ce film qui ne sied véritablement qu'à Al Pacino, même avec maquillage et perruque, c'est le plus remarquable de tous. Dans cette histoire de 3h30, il est Jimmy Hoffa, le grand leader syndical des conducteurs routiers. Dès qu'il apparaît, le film prend une autre dimension, un relief, et quand il disparaît, on regrette sa présence, sa faconde, ses coups de gueule. C'est lui le centre de gravité sans lequel cette histoire n'existerait pas, même si elle est racontée par De Niro, qui se souvient. À travers Hoffa, Scorsese ausculte l'histoire noire de l'Amérique, l'appui de la mafia dans l'élection de Kennedy, dans son meurtre, et celui de Hoffa sur la campagne de Nixon, plus la baie des cochons, le Watergate, la mafia partout, mais pour la première fois de façon politique chez Scorsese. Ça, c'est l'effet, l'aspect le plus passionnant de ce film. L'autre thème, c'est le regret, celui de De Niro, enfin de son personnage, de n'avoir pas su empêcher ces terribles événements, mais le regret et la tristesse aussi pour nous, spectateurs, devant notre tout petit écran, de rater l'ampleur de la mise en scène scorsésienne. C'est un film en ligne et pas en salle sur Netflix. Vous l'avez vu, Elia Souleyman ? Vous l'avez vu sur grand écran, ce qui n'est pas pareil du tout.
Yes.
Et alors ?
I like very much.
J'ai beaucoup aimé.
Vous avez vu un autre film, en fait ? Vous avez vu un autre film que le mien ?
Non. I can say that it's the same film. It's just you don't watch at all when you watch on the small screen.
Non, mais voilà. C'est le même film, mais sur ce petit écran d'ordinateur, on ne regarde
You're
pas en fait.
Touched,
on n'est pas ému, il n'y a rien de tendre dans ces petits écrans d'ordinateur.
Voilà, c'est dit et tout le monde va le voir comme ça. Chanson douce, Lucie Borloteau, Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils engagent Louise, une nounou expérimentée, pour que Myriam puisse reprendre le travail. Louise se montre dévouée, consciencieuse, volontaire, au point que sa présence occupe une place centrale dans la famille. Mais très vite, les réactions de Louise deviennent inquiétantes. Le film est adapté, on le sait, du prix Goncourt en 2016. Mais ce qui est énoncé dès le départ dans le roman, elle commet un infanticide, devient un suspense dans ce film. Et cela change pas mal la donnée, Laurent.
Oui, alors le film à l'origine devait être fait par Mai Wen. Elle est encore créditée d'ailleurs au scénario pour au générique du film. Qu'est-ce que Lucie Borloteau vient faire dans cette galère ? Je ne comprends pas très bien, parce qu'on avait été sous le charme de son premier film, souvenez-vous, qui s'appelait Fidelio, avec Ariane Labed, et là, moi, je n'ai rien retrouvé de son univers si singulier qu'elle mettait si bien en place dans ce premier film. Elle aussi, entre le film, en tous les cas, aussi en permanence entre Chabrol et Haneke, ou Les blessures assassines de Jean-Pierre Denis, merveilleux film sur l'affaire des sœurs Papin, elle ne choisit pas. La dangerosité de Karine Viard, mais clignote comme un sapin de Noël dès les premières images du film, donc ça casse quelque chose de façon trop évidente. Bref, on est devant un objet dans lequel on ne rentre absolument pas, et on se dit vivement, vivement, vivement le troisième film de Lucie Borloteau.
Sympathie pour le diable de Guillaume de Fontenay. Sarajevo, novembre 92, 7 mois après le début du siège, le reporter de guerre Paul Marchand nous plonge dans les entrailles d'un conflit fratricide, sous le regard impassible de la communauté internationale. Entre son objectivité journalistique, le sentiment d'impuissance et un certain sens du devoir face à l'horreur, il devra prendre parti. Rares, très rares sont les bons films sans clichés sur les reporters de guerre. Celui-là, inspiré d'une histoire vraie, celle de Paul Marchand donc, tête brûlée, sans l'authenticité à tous les coins de plan, des scènes vives, justes, dramatiques, cash pour exprimer la folle vie de ses reporters, et surtout sur le terrain miné, rongé par les morts quotidiennes. Guillaume de Fontenay sera l'un de nos invités samedi prochain. En attendant, allez voir ce film, Sympathie pour le diable. Indianara, Laurent, c'est un documentaire signé Haute Chevalier Baumel et Marcello Barbosa. Dans un Rio en ébullition, la colère gronde. Indianara, révolutionnaire hors norme, mène avec sa bande un combat pour la défense des minorités et la survie des personnes transgenres au Brésil.
Oui, c'est une très très belle personne, comme on dit, cette grande gueule absolument militante. Le documentaire mêle son parcours singulier avec évidemment un combat qui est forcément universel. Les deux choses sont mêlées, sont étroitement mêlées. Alors c'est, il n'y a pas de commentaires, pas d'interview, on suit cette femme en permanence. Ça veut dire que c'est une forme documentaire un peu trop classique, un peu trop contenue pour dire quelque chose d'autre, c'est-à-dire pour donner envie de suivre presque cette femme. C'est ce léger hiatus entre le fond et la forme qui fait qu'on n'adhère pas complètement, mais en même temps on est transporté par l'allant de cette femme.
L'orphelinat de la réalisatrice Charbanu Sadat, adapté des cahiers intimes de son cousin. C'est à Kaboul, fin des années 80. Le jeune et débrouillard Kodrat gagne sa vie en revendant des tickets pour aller voir les films bollywoodiens préférés. Donc rattrapé par la police, il se retrouve à l'orphelinat. En fait, l'arrivée des Moudjahidines après l'invasion soviétique, et c'est ça, c'est une façon très originale de raconter une secousse historique via un orphelinat, via l'éducation et via l'État, Laurent, en sachant que ce petit garçon aussi rêve grâce à ses comédies de Bollywood.
Oui, c'est ça, je trouve, c'est presque le plus intéressant du film. Il y a trois grandes chansons bollywoodiennes dans le film, et Dieu sait si ces chansons, on le sait, sont entraînantes. Enfin, les films de Bollywood, c'est merveilleux pour ça. Et évidemment, c'est en total contradiction avec ce que montre le film des réalités afghanes entre la période communiste et la période qui a suivi des Moudjahidines. Et cette plongée dans le film de Bollywood, dans les films de Bollywood, dans les chansons, dans l'univers chamarré, coloré de Bollywood, tout en contraste par rapport à ce que vit ce petit garçon, ça c'est très très beau et ça rend le film encore plus intéressant.
Ouais, puis l'orphelinat. Il y a cette scène folle où il passe effectivement du régime soviétique au Moudjahidine. Oui. Ils doivent brûler tous les livres.
Tous les livres.
Très impressionnant. Ouais. Des reprises. Ah, ça c'était un sacré film, L'âme des guerriers de Lita Maori.
Oui, absolument. C'est en Nouvelle-Zélande, c'est à Auckland et c'est dans une communauté maori dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est très très violente, bousculée. Enfin voilà, c'est un film très âpre. L'âme des guerriers. Autre âme, celle l'a perdue avec S'il vous plaît Gassman et Deneuve. C'est en 1976 devant la caméra de Dino Rizzi, film crépusculaire, très beau film. Et puis un autre mélo absolu de Frank Borzage en 1948, ça s'appelle Moonrise, le fils du pendu en français. Là aussi, c'est noir, flamboyant et mélo à souhait.
Les cadeaux pour nos invités, Laurent.
Mais oui, le premier cadeau, alors ce sera pour Alice Vinocourt. On a pensé que la cinéphile qu'elle est, elle aimait bien Fellini. Alors trois Fellini, sinon rien, Il Bidon, Les Clowns, Prova d'Orchestra, s'il vous plaît. C'est au Pacte. Il y a des très beaux bonus faits notamment par notre confrère Aldo Tasson. C'est trois Blu-ray, je le répète, au Pacte. Et on vous les offre avec plaisir. On les recommande chaudement, évidemment, merci à nos beaucoup. Auditeurs. Et puis pour vous, Elia Souleymane, vous ne découvrirez pas ce cinéaste, mais je pense que comme nous, vous le revoyez plaisamment. Il s'appelait Youssef Chahine. Et ce sont 9 films de 1954 à 1979, sous-titrés La Complainte égyptienne. On y trouve notamment des chefs-d'œuvre comme Gare centrale ou bien Alexandrie. Pourquoi ? Plus de 2 heures de bonus, un livret, c'est un très beau coffret qu'on recommande chaudement à nos auditeurs et c'est chez Tamaza. On est heureux de vous l'offrir. Merci Elia Souleymane.
Merci à vous.
Il y avait un homme en commun entre vous deux, c'était le grand producteur.
Exactement.
Humbert Balzan.
Voilà.
Humbert, le grand, le beau et talentueux et magnifique Humbert Balzan. Merci beaucoup.
Merci
on vous laisse les clés du générique. Ouais. Tous les trois, merci Xavier, merci Elia Souleymane, It Must Be Heaven, merci Alice Vinocourt. Un générique franco-anglais, tiens.
This program was inspired by cinema.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
There are also script writers and cinematographers.
Les prises de vue sont des prises de son.
The title music was written by Sportacantes.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Olivier Vivier prepared the program.
C'est une émission réalisée par Laurent Thomas et Claire Destacan.
Christine Masson et Laurent Delmas produced and presented.
Et moi, Alice Vinocourt, j'y étais.
And I, Elia Suleiman, was in it.